Radio Okapi.
Bonsoir à tous et merci de choisir Radio Okapi. C'est Gisèle Cage pour votre grande édition du soir. Sans plus attendre, voici les titres. Aéroport de Kisangani ciblé par des drones. L'indignation atteint Addis Abeba. L'Union africaine condamne une attaque jugée contraire au droit international humanitaire et réaffirme son refus de toute escalade mettant en danger les civils. Lutte contre les mutilations génitales féminines. Un cri d'alerte lancé au Nord Kivu face à l'insécurité persistante. La Fondation Biester sollicite l'engagement accru des communautés et des décideurs pour défendre les droits des femmes et des filles. À invité spécial, comprendre les défis de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Emango Chimanga, spécialiste de la question, revient sur les risques pour la santé et le besoin urgent en matière de protection des femmes. L'attaque de drones contre l'aéroport continue de susciter une vague d'indignation jusqu'au sommet de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine exprime sa plus vive préoccupation et condamne avec la grande fermeté l'attaque par drone menée contre l'aéroport de Kisangani dans la province de la Tchopo, dans l'est de la RDC. Une attaque revendiquée par le mouvement armé AFC M23. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, Mahmoud Ali Youssouf souligne que cette offensive dirigée contre une infrastructure aéroportuaire située dans un centre urbain majeur et exposant gravement les populations civiles constitue une violation grave du droit international humanitaire, notamment des principes de distinction, des proportionnalités et des précautions. Plus de détails avec Grace Hamzati.
Le président de la Commission de l'Union africaine rappelle qu'en l'absence de preuves établissant de manière objective le caractère strictement militaire de la cible, une infrastructure aéroportuaire conserve sa présomption de bien civil et bénéficie à ses titres d'une protection pleine et entière en vertu du droit international. Au regard des instruments pertinents de l'Union africaine, en particulier la Convention de l'OIA de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son protocole de 2004, le président de la Commission estime que cette attaque est susceptible de relever de la qualification d'acte terroriste. Il réaffirme avec force que les groupes armés non étatiques ne sauraient invoquer aucune justification politique, sécuritaire ou militaire pour légitimer des actes visant ou mettant en danger des civils ou des infrastructures à usage civil. Le président de la Commission met par ailleurs en garde contre l'élargissement du théâtre des hostilités à des villes éloignées des lignes de front, une évolution qu'il qualifie de facteur majeur d'escalade, faisant peser des risques inacceptables sur la stabilité nationale et régionale, ainsi que sur la situation humanitaire déjà critique dans l'est de la RDC. À cet égard, il appelle l'AFC M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités, à renoncer à l'usage des moyens et méthodes de guerre indiscriminées et à se conformer strictement aux engagements pris dans le cadre des efforts de paix en cours.
Après la condamnation ferme de l'Union africaine suite à l'attaque de drones contre l'aéroport de Kisangani, l'actualité reste tout aussi préoccupante dans l'est du pays. Au Nord Kivu, une vingtaine d'écoles primaires et secondaires du groupement des Malio dans la chefferie des Bachou ont cessé de fonctionner. En cause, les attaques répétées de rebelles ADF dans les villages environnants à la limite avec le territoire voisin des Loubéros. Face à cette insécurité, parents et enfants ont fui. Certains se sont dirigés à Boutoué, chef-lieu du groupement de Moigné, d'autres vers la ville de Boutembo. La société civile appelle les autorités militaires et scolaires à tout mettre en œuvre pour éviter que les élèves ne perdent l'année scolaire. Maombi Kaongia, président de la société civile dont la chefferie des Bachou, explique au téléphone de Marc Marofimbo.
Ça fait une semaine et demie que 15 écoles primaires et 8 écoles secondaires sont fermées et les activités suspendues. Agroupement Malio, à chefferie des Bachou, territoire de Beni, au Nord Kivu. Les écoles primaires et secondaires des villages Burundo, Kisesandondi, Kivira, Kisungu-Vulera et Kiondo-Kitumbu restent fermées et les activités suspendues suite aux différentes attaques des terroristes à Def Nalu, agroupement Moigné et à une partie du village dirigeait Vurondo, groupement Malio dans le territoire de Beni. La société civile Force Vive, noyau de la chefferie de Bachou, alerte le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités pour le retour de la paix dans les zones affectées par les activistes des terroristes des ADF Ndalou, mais aussi aux autorités scolaires de prendre les mesures nécessaires pour garantir une fin favorable des activités scolaires. Et surtout quand nous sommes à la période des examens du premier semestre au niveau des secondaires.
Nous n'avons pas pu obtenir pour l'heure la réaction des autorités administratives et militaires sur cette situation. Et nous restons au Nord Kivu où la situation sécuritaire continue de se dégrader. Des centaines de personnes, majoritairement des jeunes, se retrouvent de plus en plus menacées par l'opération de traque menée contre les Wazalendo et les FDLR. Une opération qui touche particulièrement les groupements des Bambo et ses environs dans la chefferie de Buito, territoire de Rutshuru. Selon un notable local, cette opération de l'AFC AM23 intervient à la suite d'un bouclage effectué le 31 janvier autour de Bambo Centre. Une action au terme de laquelle près de 300 personnes ont été enlevées par ce mouvement rebelle. Actuellement en déplacement, Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur Bambo, s'est dit profondément inquiet. Il appelle à une implication urgente du gouvernement congolais et de ce partenaire afin d'assurer la sécurité des civils. Écoutons sa réaction.
Depuis l'enlèvement de plus de 300 personnes par les M23 le 31 janvier 2026, les jeunes qui sont restés préfèrent se cacher en brousse. Alors la quasi-totalité de ces jeunes, en tout cas leur sécurité, est en danger parce que la brousse, c'est là où les M23 encore sont en train de mener des opérations contre les FDLR et les Wazalendo. Nous craignons encore des massacres de la population parce que les M23 qui pouvaient sécuriser cette population, c'est eux-mêmes qui inquiètent encore la population. Et c'est là en violation grave des droits internationaux et humanitaires. Alors nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir mobiliser en tout cas ses partenaires internationaux et régionaux et voir comment cette population de Rutshuru et voir comment ils peuvent être sécurisés. Que le gouvernement ne se contente pas avec les papiers là où ils ont signé des accords, mais de la sécurisation de sa population par tous les moyens.
Par ailleurs, des organisations de défense de droits humains signalent qu'après plusieurs attaques attribuées au Wazalendo, la FC AM23 a mené hier mercredi un nouveau bouclage dans la localité de Kituva, chefferie des Baoundé, dans les territoires voisins de Massissi. Plusieurs dizaines de jeunes y auraient également été emmenés vers une destination inconnue, accentuant davantage les inquiétudes autour de la sécurité des civils dans ces zones sous occupation. 24 heures après l'assassinat du président de la société civile de Baema Bajere en Ituri, la tension reste vive. La coordination provinciale de cette structure citoyenne réclame désormais l'ouverture d'enquêtes indépendantes pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Et dans un contexte où les violences armées se multiplient dans la province, la société civile souligne que la victime était un défenseur de droits des opprimés, un engagement pour lequel, selon elle, ces bourreaux ont choisi de le réduire au silence. Pour le responsable intérimaire de la société civile de l'Ituri, cet assassinat n'est fait que s'ajouter à la longue liste des civils pris pour cible dans cette région meurtrie. Maître Jean-Marie Ezadri s'exprime au micro de Jean-Claude Lokidi.
La coordination provinciale de la société civile y a annoncé la mort tragique de notre collègue Désiré Malodra. Une situation qui met à mal la question de la paix pour laquelle toutes les autorités de la société civile se sont mobilisées pour la recherche de la paix. Une situation qui met à mal aussi la réelle réalité des opprimés comme les déplacés dans la zone parce que c'est lui qui accompagnait la population dans la zone. Aujourd'hui, il est tombé suite à son travail. Nous, la coordination provinciale de la société civile, avons demandé aux autorités étatiques, mais aussi particulièrement judiciaires, qu'il y ait une enquête indépendante qui soit mise en place pour élucider les contours de l'assassinat de ce défenseur des droits de l'homme. Et éventuellement, à la MONUSCO d'accompagner la dite démarche pour qu'il y ait l'aboutissement erré de la dite enquête, d'autant plus que la MONUSCO est aussi dans la zone où est abattu à ce jour notre frère.
Dans un tout autre registre, ce 6 février marque la journée mondiale des luttes contre les mutilations génitales féminines instaurée par l'ONU pour sensibiliser le monde au danger de cette pratique et mobiliser gouvernements, organisations, communautés et familles pour son élimination. À cette occasion, la Fondation Biester, engagée au Nord Kivu dans l'autonomisation économique des femmes, l'accompagnement psychosocial et la défense de leurs droits, appelle à une mobilisation réelle de tous pour protéger les femmes et les jeunes filles particulièrement exposées dans ces contextes d'insécurité persistante. Sa directrice mignonne Zaina Chaupanga insiste par ailleurs sur la nécessité pour les victimes de briser le silence et de rechercher un accompagnement. Elle s'exprime au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Les mutilations génitales féminines sont une violence inacceptable. Leurs conséquences sont graves. Douleurs intenses, complications à long terme, difficultés lors des accouchements, traumatismes psychologiques et atteintes irréversibles au bien-être et à la vie de filles. Dans le contexte de l'insécurité au nord et au sud Kivu, le risque que ces pratiques continuent ou s'aggravent est réel. Les déplacements forcés, la pauvreté, la déscolarisation de filles et l'affaiblissement des mécanismes de protection exposent encore davantage les enfants à des violences souvent perpétrées dans les silences. Les mutilations génitales féminines sont interdites par la loi congolaise et une violation grave des droits humains. Nous lançons un appel solennel à tous. Dites non à ces pratiques et engagez-vous activement pour leur disparition. Toutes les victimes doivent également dénoncer ces violences car chaque signalement est une chance de sauver une vie et de protéger l'avenir d'une fille.
Et toujours dans le cadre de cette journée internationale contre les mutilations génitales féminines, célébrée chaque 6 février à travers le monde, l'attention se tourne vers les conséquences dramatiques de cette pratique, encore observée dans certaines cultures. Les mutilations génitales féminines consistent à enlever partiellement ou totalement les organes génitaux externes d'une fille ou d'une femme ou à les blesser sans aucune justification médicale. À l'occasion de cette journée, Emango Chimanga, expert en santé sexuelle et reproductive au sein du programme dédié au Kasaï Central, rappelle que ces pratiques entraînent des lourdes répercussions, parmi elles des complications sévères de l'appareil génital, des traumatismes psychologiques et des conséquences gynécologiques durables. Il revient sur ces risques et en détaille la gravité au micro d'André Katendenga Lamoulmé.
Il y a les conséquences à court terme et les conséquences à long terme. Les conséquences à court terme, d'abord, la première chose, c'est la douleur. Quand on le fait, surtout traditionnellement, on le fait sans anesthésie, et ce qui donne beaucoup de douleur après cette intervention. On peut aussi assister à des saignements qui sont abondants, qui peuvent aboutir même à un décès. D'autres conséquences aussi, ça peut être le gonflement des organes génitaux, et on peut aussi assister à des infections génitales, à des problèmes urinaires. Les conséquences à long terme, la femme peut continuer à uriner avec beaucoup de douleur. On peut aussi assister à une cicatrice qui ne peut pas bien fermer l'orifice vaginal, ce qui peut aboutir à un accouchement difficile, mutilation génitale. On peut aussi avoir les règles qui sont pratiquement difficiles. On peut aussi assister à des problèmes psychologiques chez la femme.
Santé au sud Kivu. Les cas de rougeole ne cessent d'augmenter dans la zone de santé d'Idui, dans les territoires du même nom. La maladie touche principalement les enfants âgés de 0 à 5 ans, identifiés dans plusieurs aires de santé. Pour faire face à cette recrudescence, la division provinciale de la santé intensifie la vaccination autour des enfants exposés, affirme le médecin chef de zone d'Idui. Le docteur Aimé Nkemba rassure par ailleurs les parents dont les enfants présentent des signes de rougeole et les appelle à consulter rapidement les structures sanitaires. On l'écoute au micro de Jean Kassami.
Effectivement, nous confirmons qu'il y a une augmentation des cas de rougeole dans les aires de santé. Nous avons déjà alerté la province et il y a déjà ceux qui se préparent pour nous aider à riposter ou à renforcer la vaccination autour des enfants et voir comment nous pouvons prendre en charge d'une manière permanente ces cas de rougeole. Et donc l'alerte que vous avez reçue, c'est vraiment une alerte confirmée. Nous avons des rapports, si vous exploitez nos rapports hebdomadaires, vous verrez que les cas de rougeole ne font qu'accroître. Donc il y a une augmentation et c'est comme ça que la communauté se plaint déjà par rapport à cette situation. Mais nous sommes en train de nous démener avec la Division provinciale de la santé et certains partenaires comme l'UNICEF pour voir comment nous pouvons arrêter la transmission de cette maladie au sein de la communauté.
Au-delà de leur proximité géographique, Kinshasa et Brazzaville consolident désormais leur coopération à travers un régime fiscal particulier commun. Des experts de deux rives ont validé ce jeudi à Kinshasa l'accord bilatéral portant sur l'application de ce régime qui devra encadrer la gestion du pont route-rail appelé à relier les deux capitales. La rencontre s'est achevée sous la conduite du directeur général de l'agence congolaise de grands travaux ACGT, point focal du projet pour la RDC. Les détails avec Blaise Ondongala Mayanda.
Pour rédiger cet accord, les experts des deux pays ont travaillé intensivement pendant 4 jours dans les locaux de l'Agence congolaise des grands travaux à Kinshasa. Ces assises techniques officiellement lancées marquent une nouvelle étape vers la concrétisation de ces projets stratégiques, estime la chef de la délégation de Brazzaville, Kadi Elisabeth Ndala.
Aujourd'hui, nous avons un régime fiscal et douanier harmonisé pour ce projet. Nous avons également un accord bilatéral qui vient consacrer ce régime fiscal et douanier pour nous permettre dans les prochains jours de relancer la demande de proposition en ce qui concerne le projet pont route-rail sur le fleuve.
De son côté, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux salue l'importance du pas franchi dans l'achèvement du projet route-rail Kinshasa-Brazzaville. Nico Nzao Nzao.
Franchement, c'est la première fois que je vois un tel engagement de plusieurs structures qui travaillent en commun accord pour arriver à aboutir un travail qu'on peut présenter aujourd'hui devant les deux chefs d'État.
Le projet du pont rail Kinshasa-Brazzaville vise à renforcer l'intégration économique entre les deux Congo, stimuler les échanges commerciaux et ouvrir les deux États au reste du continent africain.
Actualité internationale.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a exhorté jeudi le gouvernement burkinabé à mettre fin aux restrictions imposées à l'espace civique et à renoncer à son projet d'interdire l'ensemble des partis politiques. Dans un communiqué, Volker Turk estime que ces mesures représentent un recul sérieux pour les droits humains du peuple burkinabé. Il appelle les autorités à privilégier l'ouverture plutôt que la répression au lieu d'interdire les partis politiques et emprisonner des personnes pour avoir exprimé leur opinion. Les autorités devraient rouvrir l'espace civique, permettre le travail de la société civile et des acteurs humanitaires, respecter la liberté d'association et d'expression et de lever les interdictions visant les partis politiques conformément à leurs obligations internationales. Le 29 janvier 2026, le gouvernement burkinabé a annoncé son intention de dissoudre tous les partis politiques et d'abroger les cadres juridiques qui les encadrent. Il avait déjà suspendu leurs activités depuis septembre 2022, rappelle le Haut Commissariat aux droits de l'homme.
L'invité.
Notre invité dans ce journal est Emango Chimanga, expert en santé sexuelle et reproductive au sein du programme dédié au Kasaï Central. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines célébrée chaque 6 février, il revient sur les enjeux, les risques et les défis liés à cette pratique encore présente dans certaines communautés. Il s'entretient avec André Katende Ngalamolume.
Emango Chimanga, bonjour.
Bonjour, monsieur André.
Le 6 février de chaque année, l'on célèbre la journée internationale des luttes contre les mutilations génitales féminines. D'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on entend par mutilation féminine?
Les mutilations féminines ou mutilations sexuelles, c'est une intervention qui se fait au niveau des organes génitaux chez les femmes sans raison médicale. Et il peut s'agir d'une ablation partielle ou totale des organes génitaux chez les femmes. Ça peut être dû à une culture quelconque, mais sans une raison qui est purement médicale.
Si on peut bien comprendre, en médecine, on peut aussi admettre la mutilation. Et quand?
En médecine, c'est une pratique, je dis bien, qui n'est pas vraiment acceptée parce que ça a des conséquences néfastes chez les gens qui subissent cette mutilation sexuelle.
Vous venez de dire que la mutilation féminine a des conséquences chez celles qui la subissent. Quelles sont-elles?
Il y a les conséquences à court terme et les conséquences à long terme. Les conséquences conséquences à court terme, d'abord, la première chose, c'est la douleur. Vous le savez, quand on le fait, surtout traditionnellement, on le fait sans anesthésie, et ce qui donne beaucoup de douleur après cette intervention. On peut aussi assister à des saignements qui sont abondants ou des hémorragies qui peuvent aboutir même à un décès. D'autres conséquences aussi qui sont précoces, ça peut être le gonflement des organes génitaux qui peuvent arriver, et on peut aussi assister à des infections génitales, à des problèmes urinaires. La femme peut avoir mal à uriner, ce que nous appelons la dysurie. Les conséquences à long terme, la femme peut continuer à faire des urines, donc à uriner avec beaucoup de douleur. Avec la mutilation génitale, on peut aussi assister à une cicatrice qui ne peut pas bien fermer l'orifice vaginal, ce qui peut aboutir à un accouchement difficile chez une femme qui a subi de mutilation génitale. On peut aussi y avoir les règles qui sont pratiquement difficiles. On peut aussi assister à des problèmes psychologiques chez la femme. On peut voir une femme qui manifeste une anxiété ou une dépression. Elle peut aussi avoir une faible estime de soi. C'est sans ne pas être comme toute autre femme, parce que cette ablation, il peut arriver qu'on puisse vraiment intervenir au niveau des petites lèvres. Il y a aussi ceux qui font l'intervention au niveau des clitoris. Avec ça, la femme, sur le plan psychologique, peut se voir vraiment dans un état de faiblesse.
Quel message vous lancez à toute personne ou toute communauté qui pratique la mutilation féminine?
Avant de donner les conseils, la mutilation génitale chez la femme est aussi considérée comme une sorte de violence faite aux femmes. Donc, c'est quelque chose qui est punissable même par la loi. Pour ce fait, nous devons demander à la communauté, surtout aux jeunes filles, parce que la mutilation génitale est souvent observée au bas âge, hein, surtout avant 15 ans chez les filles, ce qui fait que les filles peuvent grandir avec cette pathologie-là. Alors, ce que je peux demander à la communauté, eux, qu'ils doivent considérer la mutilation génitale comme une violence. Ainsi, on doit catégoriquement dire non, comme on dit stop à la violence, on peut aussi dire non ou stop à la mutilation génitale féminine. Donc, nous demandons aux jeunes femmes de ne pas céder. Il y a des mutilations qui se font, non seulement l'ablation de la glande ou des petites lèvres, il y a aussi les femmes qui cherchent à prendre des produits pour rétrécir la voie génitale. Et ça a aussi des conséquences. Surtout les grands-mères qui pratiquement demandent aux jeunes filles d'introduire, par exemple, les médicaments indigènes. Donc, on doit dénoncer parce que ça amène à des conséquences que nous venons de citer.
Monsieur Imango Chimanga, nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Notre invité est Mango Chimanga, expert en santé sexuelle et reproductive, revenu sur les enjeux liés aux mutilations génitales féminines. Merci pour son intervention. C'est la fin de cette grande édition sur Radio Okapi. Mise en onde, Pierre Diassinois, coordination Judmisser Bilonda et présentation Gisèle Cage. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Pour plus de détails, rendez-vous sur radiookapi.net et retrouvez ce journal en podcast à tout moment. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et passez une excellente soirée.